BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
BFM Bourse est 100% uploadé. On est parti pour 2h30 d'autonomie totale au seul rythme des marchés. Bienvenue à tous. Le CAC 40 recule en ce moment de 0,3%. Wall Street fermé aujourd'hui. Ouais, c'est un jour férié, figurez-vous, aux États-Unis, donc pas de séance là-bas. Notre Dream Team aujourd'hui, ils sont là. Eric Blaine, directeur de la gestion action de Swiss Life Gestion Privée. Bonjour Eric.
Bonjour Guillaume. Bonjour Antoine et bonjour à tous.
Et oui, Antoine est là aussi, effectivement. Firou, salut Antoine.
Bonjour Guillaume. Bonjour Eric et bonjour
Alexandre.
Alex,
il est là.
Il est là.
Alexandre Baradez, effectivement, on vous aperçoit. Salut Alexandre, chef analyste d'IG France. Bienvenue donc à tous au cœur de BFM Bourse. On va avancer au rythme de ces marchés européens. Eric, en préparant cette interview, vous me disiez que c'est votre vision des choses. En tout cas, selon vous, les diplomates perdent le rythme. La bourse, elle, suit celui des algorithmes.
Absolument.
Vous pouvez la refaire, la redire, celle-là. C'est pas facile.
Je peux essayer. En tout cas, les diplomates perdent le rythme et pourtant la bourse, elle, suit les algorithmes.
Ah.
Et pourquoi? Et parce que ça fait une semaine que nous venons de signer cet accord entre l'Iran et les États-Unis. Ah, évidemment, ça a eu une influence quand même importante sur le prix du pétrole. En une semaine, on est passé de $94 à 70. Le CAC 40, lui, a réagi positivement, 2,9%, la zone euro aussi, plus 3,5%. Et le Nasdaq, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2,74%, c'est-à-dire presque aussi bien. Alors que ce qu'on disait quand même jusqu'à maintenant, c'est que on était très gêné par la hausse du pétrole, c'était très gênant pour l'ensemble de l'Europe et l'Asie, et que lorsque les choses s'amélioraient, on aurait un rattrapage de la zone euro.
Oui.
Mais ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, les investisseurs, ils se concentrent plus sur la révolution de l'intelligence artificielle, ses investissements, ses conséquences, sa rentabilité, dégager les perdants et les gagnants, référence hier, par exemple, à la baisse d'Accenture et de Capgemini, hein, et inversement, regarde les effets positifs sur certains titres, toujours, comme les semi-conducteurs, avec AMD, avec Intel, qui progressent de plus de 10% sur la semaine, hein, bien plus que beaucoup d'entreprises lié en fait à la baisse du pétrole. Micron Technologies qui monte de 12. Et puis alors si on regarde dans tout ce qui est stockage de données, on a Seagate et Western Digital qui montent de 20 et 30% respectivement. Donc en Europe, on a ASML, Infineon et STM qui cassent la baraque. Donc finalement, l'influence des algorithmes reste prépondérant en fait sur ce qui se passe en bourse en ce moment.
Oui, c'est impressionnant, mais c'est presque un peu frustrant parce que pendant le début de la guerre en Iran et pendant cette guerre, en fait, l'Europe a beaucoup souffert, beaucoup plus que les États-Unis, du fait de notre dépendance au pétrole du Moyen-Orient. Maintenant qu'on a cette paix ou cette promesse de paix, Wall Street continue de surperformer quand même. C'est-à-dire que pile, l'Europe perd face Wall Street gagne, quoi. Dans les deux cas, le résultat est le même pour nous.
Alors, c'est ça. Et c'est pas vraiment Wall Street, c'est le Nasdaq. C'est vraiment le Nasdaq qui gagne. Donc, c'est pour ça que je mets le focus là-dessus. C'est que c'est vraiment les algorithmes, la révolution d'intelligence artificielle qui prime aujourd'hui sur le marché. Et c'est là où est tout le focus et où les actifs vont, en fait. Hein. Et
alors, Alexandre, votre regard là-dessus sur une forme d'effectivement de rouleau compresseur à la hausse sur les marchés, les algorithmes plus forts peut-être même qu'un certain nombre de fondamentaux. Est-ce que vous partagez l'idée ou vous nous apportez des nuances, voire des différences?
Oui, non, je partage assez l'idée de Eric sur le plateau parce que les indices européens ne sont pas tous au même niveau. Par contre, effectivement, des indices comme l'Italie ou l'IBEX, donc, qui avaient déjà beaucoup performé les mois précédents et qui ont un peu stagné au début de la guerre en Iran et qui arrivent malgré tout à afficher des performances assez correctes. Mais c'est vrai que ceux sur lesquels on est frustré, et moi plus particulièrement parce que je les suis vraiment avec attention, c'est par exemple un CAC 40 qui, même si c'est un peu repris, n'arrive toujours pas à reprendre ses 8600 points et son record d'il y a quelques mois. Et puis un indice typiquement qui est très sensible à la question des prix de l'énergie, à la question de la situation géopolitique, à savoir le DAX. Vous regardez un indice comme le DAX, dividendes inclus, depuis 12 mois, il est sur une phase très très latérale et il ne bouge quasiment pas. Alors qu'effectivement, le pétrole a lâché de 35% depuis son point haut. Donc effectivement, il y a une forme un peu de frustration en Europe de voir les indices les plus sensibles à la guerre en Iran repartir à la hausse. Alors après, c'est vrai que si on analyse sur les dernières heures ce qui s'est quand même passé, on voit par exemple que la détente des taux qu'on a observé sur les taux européens, vous prenez les taux à 10 ans en Europe qui sont détendus quelques jours avant l'annonce de l'accord et ensuite après l'accord, eh bien on voit que ces taux souverains, la détente, ou plutôt que le pétrole, a continué à baisser, mais les taux européens, eux, n'ont pas continué leur baisse. Et à quel moment ça s'est arrêté? C'est mercredi, après la réunion de la Fed, avec ce message du nouveau président de la Fed, qui a clairement fait comprendre que les 2% d'objectif d'inflation, ça restait dans le mandat de la Fed, et que tant que ce n'était pas atteint, aucune raison de changer pour l'instant l'objectif. Et donc, ça a relifté les taux, On a l'impression que ça, l'Europe l'a mal digéré, et donc il y a quand même une désynchronisation assez forte depuis maintenant 2-3 jours entre l'énergie qui a vraiment poursuivi sa baisse et puis des taux, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qui eux se sont un peu stabilisés, ils sont même un petit peu repartis un petit peu à la hausse. Donc voilà. Moi je pense quand même que si on veut pas timer le marché, que la partie européenne reste quand même assez attractive. Encore une fois, si la guerre en Iran, réellement le pétrole reste sur les niveaux où il est, que la BCE ne fait pas l'erreur de relever une deuxième fois les taux à la rentrée, je pense qu'à 15 fois les bénéfices anticipés sur un Eurostock 600, donc qui regroupe les plus belles valeurs européennes, celles du CAC, du DAX et d'autres, c'est la moyenne de valorisation des 10 dernières années. Donc on n'est pas au-dessus de la moyenne, on n'est pas en dessous de la moyenne, on est dans la moyenne. Donc, si on lève les freins de l'énergie, de la géopolitique et que la Chine, et ça on peut en parler parce que je pense qu'il y a une petite inquiétude sur les derniers stats de la Chine qu'on a vu il y a quelques jours, mais hormis ça, il n'y a pas de raison de ne pas être long sur l'Europe, de ne pas acheter l'Europe dans ce contexte-là.
Oui, mais en même temps, regardez les effets de change. Par exemple, le dollar, c'est quand même le fait de la semaine. Le dollar remonte très nettement là d'un coup. On était sur un trend fin d'année 2025, début 2026 de baisse du dollar, dédollarisation. Voilà, ça allait continuer. Certains voyaient l'euro à 1,25$ peut-être dès l'été ou en fin d'année. Et puis depuis le début de la semaine, au contraire, c'est le dollar qui remonte fort. On est à 1,14$, l'euro vaut 1,1450$ là en ce moment. Certains se disent même que c'est le retour de l'exceptionnalisme américain avec cette remontée du dollar. Et comment vous l'interprétez, vous, de la remontée du dollar?
Je pense que c'est beaucoup plus technique là. Je pense que le discours de la Fed a un petit peu surpris. On attendait quand même ce premier discours. Et lorsque les informations sont arrivées, on s'est aperçu que le discours, en tout cas dans les paroles, était très attention à l'inflation, quoi. C'est ça qui est important. On s'y attendait pas forcément. Donc, on est passé d'une mentalité de marché, un consensus qui voyait une stabilisation, voire une baisse des taux, à tout d'un coup, potentielle hausse des taux, peut-être d'ailleurs de façon plus proche qu'on pouvait l'imaginer au cours de l'année 2026. Bon. Ça a surpris, et donc ça a renforcé le dollar. C'est clair. En plus, comme il y a quand même des mouvements forts d'achat en ce moment sur les actions technologiques, ça a pas amélioré les choses. Mais je pense que là, c'est une erreur du marché. C'est-à-dire que le dollar se renforce, oui, sur un discours, mais c'est pas des actes. La Fed est encore loin de monter ses taux. Et si on voulait imaginer un président de la Fed qui fasse un premier discours et qui réussisse son discours dans un environnement politique quand même tendu avec Trump, qui quand même l'a nommé et il est pas là pour monter les taux mais les baisser, il vaut mieux avoir un discours un petit peu puissant, un petit peu fort et faire réagir les marchés et les anticipations plutôt que d'agir pour éventuellement après, avec la baisse du pétrole, avec les effets positifs de ce que ça peut entraîner sur la fin de ce conflit, pouvoir dire bah non, finalement je vais pas les remonter, je vais calmer le jeu et même je vais pouvoir les redescendre. Donc je pense que là on est plutôt sur un phénomène technique de rachat de short ou d'anticipation un petit peu surprise de la part des analystes.
Donc il y a ces effets de change, la remontée du dollar qui rend à nouveau Wall Street attractif, hein, parce que ceux qui sont investis sur Wall Street là, même si c'est plutôt pas mal, ouais, plutôt positif. La question c'est, est-ce que ce mouvement va se prolonger? Est-ce que ce mouvement, Alexandre, va se prolonger de remontée du dollar? Hop, attendez, on va rallumer les sons, on vous écoute. Reprenez Alexandre, on n'a pas entendu le début.
A été nominé par Donald Trump, et ce à quoi on pouvait peut-être s'attendre, et c'est pour ça que je pense que le marché agit comme ça mercredi soir, à savoir les taux, le dollar, puis le marché action, qui en tout cas mercredi, après ça a changé, mais mercredi était plutôt sur la défensive, c'est parce que beaucoup s'attendaient probablement à ce qu'il y ait un discours qui ménage la possibilité toujours de baisse de taux à plus moyen terme, mais qu'il entretienne un peu cette idée-là. Sans donner de gage à court terme, on a bien compris que la forward guidance, la projection, c'était pas selon son dada, mais on pensait qu'il pouvait expliquer que à moyen terme, après l'accord États-Unis-Iran, si l'inflation par l'énergie redescendait, que la question des baisses de taux pouvait à nouveau être sur la table. Or, son discours n'était pas du tout façonné autour de ça. Il a vraiment été façonné sur l'idée que déjà on donne moins de visibilité au marché, ça c'est clair. Il aperçoit un peu le rôle, il dit, ce sont en gros presque c'est les marchés qui disent à la Fed ce qu'elle doit faire. C'est un peu ça qui est en substance de son propos. Et surtout, encore une fois, il a bien rappelé à plusieurs reprises dans le discours que la crédibilité de la Fed et le mandat de la Fed, c'était bien 2% d'inflation. Alors pourquoi je trouve qu'il y a quelque chose qui a un peu changé? Parce que regardez tous les marchés, comment ils se sont comportés après la Fed. Marché d'échange, le dollar se renforce. Les matières premières, regardez les métaux, par exemple, précieux, semi-précieux, souvent libellés en dollars, ils partent à la baisse. L'or, même les métaux industriels, comme le cuivre, partent à la baisse. Regardez le marché obligataire, les taux se sont retendus. Le seul marché qui était assez peu sensible à ça, c'est le marché action. Donc moi, je pose la question, soit effectivement, le marché action n'aurait pas forcément les mêmes discours, ou n'a pas la même sensibilité, ou peut-être la même technicité. Les gens qui traitent sur le marché action sont peut-être pas le même degré de connaissance que ceux qui traitent sur le marché obligataire, peut-être. Donc peut-être une forme de spéculation un peu débridée. Mais comment expliquez-vous que les matières premières réagissent, le marché d'échange réagit, que les cryptos aussi, ça c'est un plus petit marché, mais réagit aussi, marché d'échange qui réagit, et seul le marché action ne réagit pas à ce discours. Et puis, dernier élément, c'est la courbe de taux aux États-Unis. Vous avez remarqué que après les discours de Kevin Warsh, on a des taux courts, c'est déjà le cas depuis quelques jours, mais ça s'est accéléré après le discours. Vous avez des taux courts américains qui sont redressés plus vite que les taux longs. Et donc, ça vous donne une courbe de taux qui s'est aplatie, qui a accentué son aplatissement. Et dans l'histoire, on n'est pas sur une inversion de courbe de taux, à nouveau pour l'instant. Mais ce que ça peut signifier, c'est qu'effectivement, en tout cas, l'aspect monétaire est revenu dans l'équation et le risque de hausse de taux, qui n'est peut-être pas réel, mais le risque est perçu par le marché comme tel, et la courbe de taux qui commence à s'aplatir plus fortement, c'est qu'il y a peut-être aussi un petit risque économique qui pointe à l'horizon si la Fed maintient ses taux inchangés, voire si elle remonte. Et le marché action, par rapport à ça, lui, ne réagit pas une seconde que pour assez fragment.
Oui, je vous dis un truc. J'ai l'impression que maintenant, la tech, c'est plus important que la Fed. Non, mais c'est vrai, la tech, c'est la tech qui porte les marchés. Il y a tellement d'argent là dans la tech, et en investissement, en trésorerie, etc., que on n'arrive même plus à compter. Est-ce que quelque part, c'est pas le comportement, les annonces des acteurs de la tech qui comptent autant, voire plus encore, que les annonces et la conférence de presse de Kevin Warsh, en l'occurrence, Eric?
C'est un peu ce que je disais au début, hein, c'est que les algorithmes dominent aujourd'hui d'investissement en actions. Et donc, comme on a de plus en plus de particuliers qui agissent en bourse, parce que c'est vrai que le côté particulier est important aux États-Unis, ça peut aussi expliquer une différence de fonctionnement en fait du marché obligataire et matériaux et mines versus actions.
Oui, par exemple, il y a toujours c'est ça qui est dingue avec la tech, c'est qu'il y a toujours de l'espoir quelque part, et parfois donc aussi du rêve. Et le risque quand on rêve, c'est de se réveiller un peu déçu. Bon. Voilà. Par exemple, dans l'univers des cartes mémoire, on n'arrête pas de dire c'est hyper cher les cartes mémoire, à un moment le cycle va se retourner, alors là ça va faire très mal. David Rainville sera avec nous tout à l'heure, expert de ces thématiques tech, et il va nous expliquer que à ses yeux, en 2028, la demande pour les cartes mémoire sera encore en hausse de 20-25% par rapport à 2027, donc en 2028, et il va nous expliquer aussi tout à l'heure que ces sociétés des cartes mémoire peuvent générer énormément de cash dans les prochaines années avec cette demande très forte, au point que si elles se mettaient à racheter les actions dans 2-3 ans, quand le cycle se retournera, elles seraient capables de racheter sans aucun problème 100% de leurs actions. Si bien donc que même quand le cycle va se retourner et qu'il y aura moins de demandes et une inquiétude des investisseurs, ce serait compensé par de possibles rachats d'actions massifs qu'elles seront capables de piloter. Antoine.
Se racheter à 100%?
Non, mais c'est une idée. C'est pour dire l'ampleur de l'argent dont elles disposeront pour pouvoir acheter des actions.
Parce que depuis qu'on parle de cet extraordinaire boom des mémoires, et ça j'en conviens tout à fait, notamment vu les dynamiques de développement de l'intelligence artificielle, etc. Moi, je me souviens d'une première très forte vague des acteurs de la mémoire. C'était entre 2005 et 2010. Ça avait monté comme une fusée, mais alors le retournement de marché avec la baisse des prix avait été mais monstrueuse. Il y a des entreprises, à mon avis, il y a la moitié des acteurs des puces mémoire qui se sont retrouvés sur le carreau et rachetés par des concurrents qui avaient un petit peu mieux résisté, mais il y a eu un apocalypse de la mémoire. Il faut prendre tout ça en compte parce que l'histoire souvent se répète. Ouais. Et les cycles dans la technologie peuvent être extrêmement violents. Et c'est vrai que quand on parle des SanDisk, quand on parle des SK Hynix, moi ça me fait penser vraiment à ce moment-là où les cours de bourse étaient vraiment indexés sur le cours des mémoires. Il y avait un cours de la DRAM. Et le retournement avait été archi-violent.
Si, c'est David Rainville, il sera avec nous tout à l'heure, ne ratez pas ce moment parce qu'il portera ses propres arguments, mais voilà ce qu'il va nous expliquer. Si les acteurs des cartes mémoire retournent 50% de leur free cash flow dans 2-3 ans, eh bien ils pourront racheter parfois jusqu'à 100% de leur capitalisation sur le marché sans aucun problème. Et donc ça porterait les cours. Bah oui.
Alors, avec l'historique que je peux avoir sur les marchés financiers, je suis quand même un petit peu d'accord avec ce qui vient d'être dit par Antoine.
La version d'Antoine. Ouais.
C'est vrai, la version d'Antoine. C'est-à-dire que dans les investissements, dans les dépenses d'investissement, donc dans les biens d'équipement, on a donc en général les valorisations qui augmentent sensiblement sur des croissances bénéficiaires attendues du fait des dépenses qui sont faites et des anticipations de dépenses futures. Bon, ça marche bien, hein, tant que les investissements augmente. C'est-à-dire dès que la dérivée seconde de la croissance d'investissement ralentit, la bourse ne valorise pas du tout au même niveau. C'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau de 25 fois et autres, on est au niveau 2 fois moins, c'est-à-dire entre 8 et 12 fois. Les biens d'équipement, ça vaut pas 25 fois. Ça vaut 25 fois quand on est dans des bulles d'investissement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est avec l'intelligence artificielle. Donc il suffit aujourd'hui qu'une de cette magnifique que l'on connaît très bien aujourd'hui, qui s'endette pour investir, qui a des free cash flow beaucoup moins forts et donc qui est moins bien valorisée en bourse qu'elle n'était, disent bon bah moi je vais ralentir un petit peu mes investissements, et je pense que ce cycle là que l'on anticipe, il sera différent boursièrement parlant, parce que les PER ne seront plus les mêmes, et donc peut-être qu'ils auront des free cash flow énormes parce qu'effectivement ils ont des marges, peut-être qu'il y aura de la demande, mais le PER, et c'est ce qui a quand même fait monter les cours, c'est évidemment les bénéfices mais aussi les PER, et là on aura une différence de valorisation.
On continue d'essayer d'anticiper les choses. On vous rappelle que Wall Street aujourd'hui est fermé, c'est un jour férié aux États-Unis. À Paris, le CAC 40 perd 0,2%. Ça n'empêche pas le CAC de signer une cinquième semaine de hausse, hein, quand même, malgré la petite baisse d'aujourd'hui. Quelles sont les valeurs à la Bourse de Paris? On vous retrouve dans un instant, Alexandre. On parlera de la Chine aussi. Vous disiez, c'est un sujet important. On va en parler, hein, promis. Mais juste du côté des valeurs, quelles sont celles qui retiennent particulièrement votre attention là sur la semaine, Eric?
Voilà, Nexans, c'était intéressant quand même, parce que aujourd'hui, je crois qu'on monte sensiblement, hein, si je me trompe pas. Donc on a
une. Là, c'est une façon de me demander si le titre est en train de progresser. Alors attendez, je vais regarder.
Si je me trompe pas, normalement, avant que j'arrive ici.
Plus 3,5.
Bon, c'était plutôt plus de 5 tout à l'heure, mais 3,5 c'est déjà pas mal. Il y a eu une présentation en fait d'un des derniers navires de Nexans qui a eu lieu donc à Oslo par les analystes financiers, et ils ont sont ressorti quand même dithyrambiques. Donc en voyant en fait que donc ce troisième navire va permettre en fait d'améliorer les interconnexions avec les éoliennes offshore, donc d'améliorer en fait l'ensemble du réseau, et l'ensemble de ceci en fait montre bien que Nexans a pris le virage donc de la transition électrique et de la demande en data center, et donc ça a donné un environnement favorable à Nexans, qui avait consolidé en fait après avoir bien monté. Prysmian et Nexans avaient bien monté sur cet environnement de transition électrique, sur cette demande en fait dans data center, et donc on voit bien qu'il y a réalité, première chose, et donc la progression de Nexans est en train de continuer, ce qui est favorable donc au titre, et à mon avis c'est justifié.
Vous l'aimez d'amour, cette valeur?
Moi je l'aime bien, oui. C'est
bon. Une autre valeur qui retient votre attention en ce moment, avec vos équipes bien sûr, vous n'êtes pas seul, Eric.
Absolument.
On les salue.
La baisse de Total, par exemple.
Oui, bien sûr, avec le pétrole.
On vient de perdre $10, de 80 à 70. On a quand même une valorisation aujourd'hui qui est de 8 fois les bénéfices. On a un dividende qui va tomber le 30 juin qui va être de 85 centimes et un rendement de autour de 5%. Et puis, une société qui s'est fait coter en propre aux États-Unis. Donc on l'a pas vraiment vu ça, parce que on a vu que le pétrole avait monté, donc on avait acheté toutes les sociétés pétrolières, mais il y en a une qui se distingue quand même dans l'eau, c'est que celle qui vient de se faire coter en propre aux États-Unis, pas sous forme d'ADR. Et donc à partir de ce moment-là, j'en parlais avec donc le patron de Total à la dernière conférence d'Exxon, et il me disait qu'il avait vu une vraie différence sur les acheteurs en fait du titre Total aujourd'hui, beaucoup d'Américains qui gèrent des SICAV domestiques. Donc la différence d'évaluation entre Total qui vaut 8 fois les bénéfices et la moyenne des sociétés américaines qui vaut plutôt 12 fois, c'est très intéressant.
Et puis dans la défense, Renault, oui vous avez bien entendu, dans la défense, dans le secteur de la défense, il y a Renault là, qui progresse en tête du CAC d'ailleurs de 4%. C'est une valeur de défense, Renault, pour vous?
Alors c'est intéressant, ça fait le troisième deal que fait Renault dans la défense. Oui. Donc ils ont bien compris qu'ils avaient des surcapacités.
Avec Thales pour des véhicules militaires.
C'est ça, donc ils ont bien compris qu'ils avaient des surcapacités en fait de production, que pour donc il y a plusieurs choix, hein. Par exemple Stellantis les a vendus à un chinois, donc pour produire de l'automobile. Bah eux ils essayent de les occuper en faisant des deals avec Thales, avec le secteur de la défense, pour occuper les usines et puis faire des marges, parce qu'il y a quand même pas mal de marges dans le secteur de la défense, et c'est une bonne stratégie. Et que le cours de Renault, qui est au plus bas comme l'ensemble du secteur automobile, remonte, c'est quand même pas surprenant.
Ils veulent néanmoins que la défense plafonne à 5% de leur chiffre d'affaires. Ils ont mis un plafond, c'est un peu dommage peut-être.
Ça peut être révisé.
Hein, ça peut être révisé. Puis c'est pas si mal, 5%. En
plus. C'est ça.
Alexandre, attention à la Chine, vous disiez, c'est peut-être le signe noir, faut pas exagérer, mais enfin, le signal un peu négatif du moment. C'est vrai, on a eu des ventes au détail en Chine très décevantes, en baisse pour la première fois depuis 3 ans.
Oui, on a effectivement, alors, bon, c'est sur la Chine, je suis, en termes de moyen terme, je trouve que les actions chinoises actuellement, vu les valorisations, qui sont pour un indice comme le Hang Seng, par exemple, si vous prenez l'échelon des valorisations, en haut de la pyramide, c'est la partie américaine, au milieu, c'est la partie européenne à 15 fois les bénéfices, et du Hang Seng aujourd'hui, vous l'avez sur les bénéfices anticipés, autour de 12, 13 fois les bénéfices, donc c'est pas excessivement cher. On avait démarré l'année pas trop mal, avec des signaux plutôt positifs, et c'est vrai qu'au fil des mois, alors je pense qu'il y a des effets aussi là-dedans, un petit point de vue par la guerre en Iran malgré tout, on a vu que la croissance de la consommation en hier-pouillère, donc d'une année à l'autre en Chine, va se tasser, et puis là, le mois dernier, on est même passé en contraction, ça c'est le premier repli, donc en montant des ventes au détail qu'on a eu en Chine, depuis quasiment 3 ans, et le problème, c'est que le chiffre du mois d'avant était assez moyen aussi, et le deuxième critère qu'on regarde, c'est la partie, enfin le deuxième paramètre, c'est la partie investissement en capital fixe, tout ce qui est urbain, c'est-à-dire infrastructure, le mobilier ou autre, et là on voit aussi qu'on a un chiffre qui était vraiment pas du tout en ligne, et qui rappelle que ce segment immobilier chinois, même si c'est quand même stabilisé et c'est un petit peu amélioré, d'accord, il n'est toujours pas très dynamique. Et donc, c'est ça l'image qu'on a de la Chine, c'est qu'il y a vraiment une divergence forte. Vous avez d'un côté la sphère, tout ce qui est manufacture, industrie et gros moteur export, toujours bien allumé. Et de l'autre côté, vous avez une demande, donc les consommateurs, les Chinois, une demande domestique qui est vraiment atone. Alors, je dirais que si on veut voir le verre à moitié plein là-dedans, c'est, je pense très probablement que la Chine, les autorités, vont devoir prendre des mesures. Et des mesures pendant pas forcément trop longtemps, parce que là, on constate des signaux sur la demande intérieure qui deviennent vraiment pas terribles du tout. Donc, d'un côté, je pense que ça, c'est quelque chose qui va probablement arriver cette année. Mais la question, c'est jusqu'où les autorités vont laisser cette situation perdurer? Est-ce qu'on va peut-être attendre la fin de la guerre en Iran pour les premiers effets? Donc, maintenant, est-ce que ça se redresse un petit peu vu que le pétrole et les cours commencent à retomber? Est-ce que ça s'améliore dans les mois qui viennent? S'il ne s'améliore pas, je pense que la Chine va impérativement devoir prendre des mesures cette année.
Oui, oui, à suivre aussi. Merci Alexandre Baradez de nous avoir alerté pour IG et Eric Blaine de nous avoir accompagnés en plateau. Swisslab Gestion Privée. Bon après-midi, bon week-end. Chaud. Le CAC 40 est en baisse en ce moment, moins 0,16% à la Bourse de Paris.
BFM Bourse, Culture ETF.
Optimisez vos chances en bourse, mais alors en toute paresse, vraiment laissez faire les ETF à votre place, ils prennent les tendances sans que vous n'ayez besoin de lever le petit doigt. Julie. Bonjour, Julie Cohen-Herton est avec nous, c'est Culture
ETF. Bonjour Guillaume, bonjour à tous, oui c'est l'été. Hein. Et alors si la prochaine génération de méga IPO était déjà dans vos portefeuilles sans que vous le sachiez, beaucoup pensent qu'un ETF large absorbe automatiquement les stars de la tech dès leur entrée en bourse. Et bien c'est complètement faux. L'engouement médiatique ne fait pas l'indice et c'est ce que va nous expliquer notre expert Guillaume Dambrine pour Franklin Templeton. Bonjour.
Bonjour Julie, bonjour Guillaume.
Bonjour, bienvenue.
Merci d'être avec nous. Alors on débute, hein, comme chaque vendredi, par les flux. On en est où au niveau des ETF depuis le début de l'année?
Alors une année qui s'annonce encore record avec des flux très dynamiques depuis le début de l'année, donc de plus de 220 milliards de collectes sur les ETF en Europe, avec le mois de mai aussi très fort avec 45 milliards. Ce qu'on peut noter, c'est que effectivement les actions US ont repris un petit peu la lumière ces dernières semaines, au détriment de l'Europe et du Japon et des émergents. Mais depuis le début de l'année, l'image est un petit peu plus nuancée parce qu'on a vu un besoin de diversification, notamment sur l'Europe, le Japon et les marchés émergents.
Alors on revient à notre sujet de méga IPO, hein, méga IPO de SpaceX, c'était il y a tout juste une semaine. Est-ce qu'une entrée fracassante en bourse, ça signifie mécaniquement une place de choix dans un ETF?
Eh bien non, dans tous les cas, pas tout de suite. Effectivement, il y a des règles, hein, d'intégration dans les indices. Et surtout, les indices prennent en compte le flottant, ce qu'on appelle le flottant. Donc ce sont les actions qui sont vraiment disponibles pour le public. Donc si on prend l'exemple de SpaceX dont tout le monde parle depuis la semaine dernière, SpaceX c'est effectivement 2000 milliards de capitalisation, mais c'est 4 à 5% de flottant. Donc investissable, en gros, c'est 100 milliards de dollars. Si on compare avec Nvidia, c'est 2,5 fois cette taille, c'est 5000 milliards de capi, mais avec 96% de flottant. Donc un montant investissable totalement différent. Concrètement, ça veut dire que Nvidia dans le Russell 1000, c'est 7%. Si on intégrait aujourd'hui SpaceX dans le Russell 1000, ce serait de l'ordre de 0,10%. Donc, effectivement, il faut relativiser avec le flottant et le fait que ce soit ça qui est pris en compte pour l'intégration dans les indices.
Pourquoi un futur SpaceX ou OpenAI ou Anthropic, hein, il y en aura beaucoup d'autres, ne rentre pas dès le lendemain dans le S&P ou le CAC 40? Qu'est-ce qui coince au départ?
Alors, ce qui coince, bon, c'est pas vraiment que ça coince, mais c'est qu'il y a des critères d'intégration dans les indices qui sont des critères premièrement techniques. La taille du flottant, la liquidité et un historique de cotation. Il y a également les règles spécifiques à chaque fournisseur d'indices qui peuvent être différentes. Certains d'entre eux ont récemment adopté des règles pour prendre en compte ces méga IPO de façon plus rapide et donc les intégrer plus rapidement dans les indices. C'est le cas par exemple de Nasdaq ou du Russell. D'autres n'ont pas changé vraiment la politique pour l'instant. Par exemple, c'est le cas du S&P où il faudra attendre beaucoup plus longtemps pour que une entreprise comme SpaceX puisse être intégrée. Sur les grandes IPO à venir, et puis incluant aussi SpaceX, il faut bien prendre en compte qu'actuellement, le flottant de toutes ces méga IPO est très faible. Donc, ce qui, concrètement, limite le poids qu'ils vont représenter dans l'indice dans les futurs.
Mais d'accord, mais imaginons par exemple, je choisis d'investir dans un ETF espace. Ah, forcément, l'ETF espace, lui, il doit prendre un peu SpaceX, voire beaucoup SpaceX. Quand on voit la taille de SpaceX, est-ce que cet ETF espace sera vampirisé, étranglé par la taille de SpaceX en son sein?
Alors, contrairement aux ETF sectoriels, les ETF thématiques sont en général basés sur des indices qui ont des règles de diversification beaucoup plus contraignantes, et notamment avec des plafonds de pondération. D'accord. Pour vraiment pouvoir s'exposer à la thématique dans son ensemble et ne pas se retrouver surexposé à une action en particulier.
Et alors, à l'intérieur d'un ETF, ça se passe comment quand il y a un nouveau géant qui entre ?
Alors, comment ça se passe quand il y a un nouveau géant qui rentre? On doit suivre les règles de l'indice. Donc, on parlait tout à l'heure du flottant. Le flottant va permettre de déterminer le poids de cette société dans l'indice. Et donc, on va venir vendre un petit peu de tous les autres composants pour acheter cette nouvelle entrée dans l'indice. Il faut savoir que les ETF passifs ne font que de suivre strictement les règles de l'indice. Et donc, on va avoir une montée en puissance progressive du poids de ces nouveaux entrants dans les indices en fonction de l'évolution de leur flottant.
Merci beaucoup Guillaume Dambrine pour Franklin Templeton d'être passé nous voir.
C'est BFM Avec Bourse, plaisir. Merci à vous Julie. Culture merci Bourse Guillaume. À retrouver lundi à partir de 15h50. Bon week-end Julie. Le CAC 40 est en baisse de 0,17%. Pas de séance à Wall Street aujourd'hui, c'est un jour férié aux États-Unis. Sur bfmbourse.com, cet article consacré à deux CRSI. Donc pas de nouvelles aujourd'hui sur deux CRSI, mais beaucoup d'analyses dans cet article. Et on voit qu'il y a une forme de crossover, enfin de, comment on dit sur les marchés, de read across, voilà, read across. C'est une lecture croisée de cette thématique de CRSI qui éclabousse d'autres valeurs. Galeray, par exemple, recule aujourd'hui dans le sillage de deux CRSI, même s'il n'y a pas de lien direct évident. Galeray perd 7%. Ouais, mais on est sur une thématique commune, puis il y a 2-3 contrats. Bon, Galeray donc qui aujourd'hui recule sans doute pour cela, une forme de read across. Exagéré ou pas ce read across, c'est une question qu'on va évoquer avec nos experts dans un instant. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.